Nous prenons l'évangile de Jean au chapitre 16. Jean chapitre 16, à partir du verset 5. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Nous lisons Actes 1:8. Acte 1:8, il est écrit ceci, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il est écrit dans Jean 16 qu'on vient de lire, « Le Saint-Esprit glorifiera Jésus. » Parce qu'il prendra tout ce qui est de Jésus. Il glorifiera Jésus. Il fera que Jésus soit manifesté comme étant Seigneur, comme étant glorieux, comme étant Dieu, comme étant puissant. Nous allons parler de l'évangélisation, c'est-à-dire amener les âmes à Christ. Annoncer l'évangile de toutes les manières possibles. Le Seigneur veut que l'Évangile soit proclamé. Et il le dit encore dans Marc 16, qu'on va lire. Marc 16. Marc 16. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le Seigneur dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Parce que lorsqu'on prêche la bonne nouvelle, nous glorifions le Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur est ressuscité, il n'est pas sorti pour voir les sacrificateurs, voir les gens qui l'injuriaient. Voir les gens qui se moquaient de lui pendant qu'il était crucifié, il n'est pas passé les voir tous, les Pilate, les Hérode, il n'est pas passé les voir pour dire, vous voyez, vous m'avez crucifié, je suis ressuscité. Non, le Seigneur a décidé d'une méthode, c'est que c'est le Saint-Esprit qui va le glorifier. Lui-même pouvait se glorifier par sa résurrection et aller commencer à dire à tous ceux qui s'étaient moqués de lui, « Voilà, je suis bien vivant, je suis ressuscité. » Non, le Seigneur s'est montré à ses apôtres, comme il nous l'a été dit ici. Il s'est montré à eux afin que ce soit eux qui glorifient le Seigneur grâce à Acte 1:8, grâce à la puissance du Saint-Esprit survenant sur eux. Nous devons annoncer l'évangile, nous devons vivre l'évangile comme une annonce parce que Jésus doit être glorifié. Quand Dieu nous donne le Saint-Esprit. Cet esprit-là, c'est pour faire de nous ses enfants, mais c'est aussi pour glorifier Jésus. Et comment nous pouvons glorifier Jésus? C'est par l'annonce de l'évangile. C'est en vivant l'évangile comme un témoignage de différence, un témoignage que Jésus est en nous. Comme il nous a été dit pendant la modération, si quelqu'un demande, mais oui, mais toi, tu n'as pas vu Jésus. Moi, je n'ai pas vu, les apôtres l'ont vu et les apôtres me l'ont prêché. Moi, j'ai cru et il est écrit, heureux ceux qui ont cru sans voir. Mais cependant, celui qui croit en Jésus, il réalise que Jésus est en lui. C'est une réalité concrète parce que sa vie change. C'est une réalité concrète parce que ses pensées changent, son espérance change. Il commence vraiment à espérer au ciel. Il commence à être dans l'assurance, dans sa marche sur la terre. Toute sa vie change. Il sait que ce témoignage, le témoignage qu'il a reçu est vrai. Nous devons considérer cela comme étant très important, l'annonce de l'évangile. Non seulement parce qu'il faut sauver les âmes, mais premièrement parce que Christ doit être glorifié. Christ doit être glorifié dans le positionnement que tu peux prendre qui va te créer des problèmes, mais c'est un positionnement que tu prends pour manifester la nature de Christ. C'est ça, annoncer l'évangile, témoigner de l'évangile, ce n'est pas seulement lorsque nous parlons, mais ça peut être des positions que nous prenons qui font que les gens se posent des questions sur ce qui nous motive, et c'est là que nous leur expliquons, ou bien ils finissent par apprendre que nos positions ont été prises parce que nous croyons en Jésus, c'est à cause de Jésus. Et Jésus est donc témoigné et annoncé à travers nos positions. La femme qui a versé tout le parfum sur Jésus était animée du même esprit de glorifier Christ. Parce que humainement, ceux qui étaient là ont trouvé ça anormal qu'on verse tout ce parfum sur Jésus. Parce que c'était une question de logique. Une seule goutte de ce parfum suffisait à parfumer Jésus. Pourquoi en fallait-il en verser tout un vase? Logique humaine. Mais cette femme était dans la logique divine. Jésus est le roi des rois, le Dieu créateur. Qu'est-ce qu'un vase de parfum devant ce grand Dieu? C'est rien du tout. Alors je donne tout. Tout doit couler parce que lui, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et une goutte ne suffit pas. Elle était dans l'esprit de glorifier Christ. Nous ne voulons mettre la pression à personne pour dire « va annoncer l'évangile, va faire ceci, va faire cela ». Nous voulons que chacun s'examine pour savoir quel esprit l'anime. Est-ce que l'Esprit Saint en lui est étouffé? Est-ce que l'Esprit Saint en toi est mort? Que chacun s'examine. L'Esprit glorifiera Jésus. L'Esprit te poussera à faire des actes, à produire des actes, à parler s'il le faut. Il te poussera à témoigner Christ parce que Jésus l'a dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il glorifiera son nom. C'est ce que normalement un chrétien devait vivre. Il devait vivre le fait que Jésus doit être glorifié à travers lui. Comme je vous l'ai dit, puisque Jésus ne l'a pas fait lui-même, il nous a laissé la mission. Sinon, il aurait fait lui-même se montrer tel qu'il est ressuscité auprès des gens. Il a dit non, je vais leur donner quelque chose de plus humiliant. C'est que ce n'est pas moi qui vais parler, mais ce sont mes disciples. Ainsi sauront comment je suis puissant. Lisons Éphésiens 3:10. Éphésiens 3:10. On peut commencer même au verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes
connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Quel est le but de Dieu ? Que les autorités, les puissances de ce monde, les puissances de domination dans le monde des ténèbres, voient comment Dieu est grand à travers l'Église. Donc, Dieu pouvait lui-même se manifester en grandeur et parler, faire des choses. Il a dit non, je vais utiliser les petits hommes, mes disciples, qui sont petits, mais c'est eux que je vais utiliser afin que, en échouant face à eux, afin que dans leur proclamation, dans la manifestation de la vie en Christ, ces gens-là réalisent combien moi je suis grand. Donc je relis le passage. Il dit, afin que, au verset 10, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc Dieu va utiliser les humains que nous sommes face à des dominations. Vous savez, des dominations, c'est des grandes puissances. Nous, en tant qu'humains, nous sommes rien face à une domination, face à une principauté démoniaque. On n'est rien. C'est des puissances qui dirigent des royaumes, qui dirigent des pays, qui dirigent des millions de personnes. Face à eux, nous ne sommes rien. C'est-à-dire, quand Dieu nous envoie en mission, ces puissances des ténèbres rigolent. Ils disent, oh, il a envoyé Germain, mais il a envoyé Patrick, il a envoyé un tel. Oh, mais là, nous allons le casser, nous allons le bousiller. C'est un petit, on le connaît bien. Les dominations, ils disent, mais non, mais on sait où il est né, on connaît ses parents. On sait comment l'avoir. Mais quand maintenant ils vont chercher à t'avoir, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Mais ils se disent, mais qu'est-ce qui anime cet homme-là? C'est ainsi que il y a des dominations comme le communisme. Ils ont voulu éliminer les chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont fait 20 ans, 22 ans de prison. Mais vous savez, pendant ces 22 ans-là, il suffisait que la première année, ils disent seulement « je ne suis plus chrétien », on allait les sortir de prison. Il suffisait qu'à la 15e année, ils signent un papier comme quoi ils ne sont pas chrétiens. On allait le sortir de prison. C'était simple. Mais ils disent non, nous sommes à Christ. Alors, pour ces chefs communistes, c'était impensable qu'un homme préfère rester 20 ans en prison plutôt que de régner Jésus. Par là, ils comprenaient que Jésus était puissant. Pour pouvoir s'attacher l'amour d'un homme comme ça, il faut être puissant. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 3:10. Dieu nous a choisis, nous, pour que nous montrons qu'il est grand. Parce que, étant petit, sa puissance est en nous. Et c'est incompréhensible, nous, si faibles que nous sommes, nous puissions tenir dans le combat que Dieu nous confie. C'est incompréhensible. C'est ainsi qu'il a choisi David pour battre Goliath, afin que les gens se posent la question, pas sur David, mais sur la puissance qui anime David, qui animait David. Ils se disent, mais David lui-même, il est très petit, il ne peut pas faire le poids face à Goliath. Mais quelle puissance l'anime ! C'est ainsi qu'il a choisi Israël pour être l'évangéliste des nations, pour dire à toutes les nations, mon Dieu est le plus grand. Parce que les gens disent, mais c'est un petit pays, c'est un petit peuple, mais comment on n'arrive pas à l'étouffer, à l'éteindre ? Bien-aimés, combien de langues n'ont pas fait succès dans ce monde? Et il y a deux langues particulièrement qui ont été parlées par tous les peuples, le latin et le grec. Est-ce que vous connaissez un seul pays où on parle le grec tel qu'il était avant? En Grèce, ils parlent le grec, mais ce n'est pas le même grec d'avant. Il n'y a aucun pays où ces langues-là sont pratiquées. Le latin était parlé dans le monde entier. Le grec était parlé dans le monde entier. Aujourd'hui, dans aucun pays, on parle grec. Mais l'hébreu a été parlé que par les juifs. Et il est mort pendant un temps. Pendant environ 2000 ans, les Juifs ne communiquaient plus en hébreu. Ils communiquaient dans les langues des pays qui les avaient hébergés, reçus. Mais la puissance de Dieu a fait que dans les années 1910, 1915, 1920, la langue hébreu, hébraïque est ressuscitée. Aujourd'hui, si vous allez en Israël, les panneaux sont en hébreu, les cours sont en hébreu, tout se fait en hébreu, un peu d'anglais à côté, mais l'hébreu est une langue dans laquelle tu peux étudier, avec laquelle tu peux étudier toutes les sciences du monde, tu peux vivre en parlant hébreu, alors que c'était une langue qui était morte. Donc Dieu montre par là, le peuple, il est petit, mais le Dieu du peuple est grand. Et Jésus-Christ est glorieux, il a vaincu la mort, mais lui-même ne veut pas parler. Il veut utiliser toi et moi pour que les gens comprennent qu'il est grand. Éphésiens 3:10. D'où l'importance que notre vie glorifie le Seigneur. D'où l'importance de témoigner, de dire que Jésus est vivant. Mais non, Dieu nous utilisera chacun comme il veut. Il utilisera certains pour chanter. Mais il faut chanter dans cet esprit-là. Le Seigneur lui-même n'a pas parlé. Il m'a établi moi pour chanter. Il y en a qui vont porter les instruments. Mais il faut porter les instruments dans cet esprit-là. Nous allons chanter. Le Seigneur lui-même n'a pas parlé, mais c'est nous qui l'a choisi pour parler de lui. Il y a des décisions, des positions qu'il faut prendre. Quand tu prends ces positions, tu dis, oh, le Seigneur lui-même ne s'est pas défendu, mais il m'a choisi moi, pour que je puisse parler de lui, pour que je puisse prendre cette position, qu'on reconnaisse qu'il est grand. Nous devons être animés de l'esprit de glorifier Christ. Ça nous poussera à parler de lui. Moi, j'ai été longtemps dans les choses de Dieu. Je me souviens que pendant des années, on nous prêchait tout le temps, il faut évangéliser, il faut parler de Dieu. Mais il n'y avait aucune force, aucune puissance. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Il faut saisir que le Seigneur lui-même n'a pas parlé. Il nous a établis, nous, pour parler à sa place. Quand on saisit ça, on comprend la responsabilité qu'il y a chez chacun d'entre nous. Vous imaginez si Job avait échoué. Dieu, lui, dans le ciel, avait parié sur Job. Il a dit à Satan, tu vas voir, Job va rester fidèle. Satan dit, bon, on va voir s'il va rester fidèle. Enlève-lui ceci, Job reste fidèle. Enlève-lui cela, Job reste fidèle. Enlève encore telle chose, Job reste fidèle. À un moment donné, Job a commencé à reculer, à hésiter, à douter. Mais il s'est souvenu de son Dieu. Il a regardé le ciel, il a dit, mais non, mais qui a fait le béhémoth? Le béhémoth, qui a fait les dinosaures, qui a fait les grands monstres, qui a fait les grands animaux. Mais non, est-ce que je peux me comparer à ce Dieu-là? Peu importe ce qui m'arrive, ce Dieu-là est grand. Et quand Job a dit cela, Dieu a dit à Satan, tu vois, j'ai gagné le combat. Mon serviteur t'a vaincu. Tu as tout fait, mais il t'a vaincu. Ce n'est pas Dieu lui-même qui a combattu Satan, c'est Job qui a combattu Satan. Et Job en est sorti vainqueur. Mais qui a été glorifié? C'est Dieu qui a été glorifié. C'est comme ça que Dieu nous a choisis dans notre faiblesse, dans notre petitesse, pour des grandes missions, afin que les gens se souvenant de nous disent, mais tiens, comme il disait de Jésus, mais oh, mais c'était le fils de Joseph, non? On connaît ses sœurs, on connaît ses frères. Oh, depuis quand il est devenu le Messie? Mais quand ils ont vu les miracles, ils ont compris, ah oui, c'est Dieu est en lui, est en train d'œuvrer. C'est pourquoi Nicodème, quand il est venu le voir, il a dit, Seigneur, nous savons que tu es venu de Dieu. Pourtant, Nicodème était un juif, il devait savoir l'origine de Jésus. Mais il dit, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que le miracle que tu fais, personne ne peut le faire s'il ne vient de Dieu. Aujourd'hui, les gens réunissent Jésus. C'est grâce à toi qu'ils reconnaîtront que Jésus est vivant, il est Dieu. Ne prends pas cette responsabilité donnée à quelqu'un d'autre. C'est grâce à toi. l'Esprit de Christ a soif de le glorifier à travers toi. J'aime beaucoup l'histoire de Daniel, des amis de Daniel et de Nebuchadnezzar, parce que ça a un enseignement très, très important. Nous lisons cette histoire dans le livre de Daniel. On va pas lire, mais on va lire la phrase de Nebuchadnezzar, Daniel. Lorsque Nebuchadnezzar, étonné, il confesse lui-même le Seigneur parce qu'il a vu quelque chose chez les amis de Daniel. Nous lisons au chapitre 4. Non, au chapitre 3 plutôt. Vers la fin, verset 28. Nebuchadnezzar, quand il a vu que les amis de Daniel n'étaient pas brûlés, prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue, qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Qu'est-ce qui a épaté Nebuchadnezzar? Il le confesse. Il dit... lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ça, c'est le deuxième niveau. Le premier niveau, c'est ça. C'est qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Nebuchadnezzar est épaté par la confiance des amis de Daniel en leur Dieu. Or, ces gens-là étaient tellement sûrs de ce Dieu-là qu'ils ont préféré qu'on les brûle, qu'on les tue plutôt que d'adorer. Ils ont violé l'ordre du roi. Donc, l'acte des amis de Daniel a montré quoi? Que leur roi était plus grand que Nebuchadnezzar. Parce que tu es face à deux rois qui te donnent un ordre. Tu obéis à un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu considères que celui à qui tu obéis est plus grand que celui à qui tu désobéis. Donc, Nebuchadnezzar a réalisé que Dieu était plus grand que lui. C'est vrai, parce que les amis de Daniel n'ont pas été brûlés malgré le fait qu'ils ont été jetés dans le feu. Mais c'est surtout parce qu'il a réalisé que les amis de Daniel le savaient. Il a dit, mais donc eux, ils savaient que leur Dieu était plus grand que moi. C'est pourquoi ils ont préféré ne pas m'obéir. Il se savait lui-même impressionnant, Nebuchadnezzar. Il savait que lui-même, il est grand, craint, connu. Alors, il n'a pas trouvé normal que des humains lui résistent. Mais quand ces humains-là lui ont résisté et qu'il n'a pas pu les étouffer, les éliminer, il a réalisé que le Dieu de ces humains-là était plus grand que lui. Mais comment Nebuchadnezzar allait le savoir si chaque jour, il était servi par les Daniels, chaque jour, rien ne se passait et il allait toujours considérer qu'il est le roi de toute la terre, il est le roi de l'univers. Mais Dieu va permettre des accidents, il va permettre des confrontations où nous devons prendre position. En prenant position, les gens se diront, tiens, cette personne-là prend cette position-là, malgré le fait que ça va lui amener des problèmes. Je veux savoir qui est ce Dieu-là qui l'amène à prendre une telle position. Comment je l'ai injurié, j'ai mal parlé sur lui, mais il n'a pas bougé et il a souri. Oh, qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui l'anime? Comme quand j'étais au Maroc, je n'ai pas compris comment ces frères-là, qui avaient faim et à qui on avait laissé une petite part de nourriture, osez encore nous appeler pour manger. Alors que nous, on avait déjà mangé notre part. J'ai dit, mais non, mais ça, c'est la folie. Ce n'est pas logique. Le bon terme, c'est ça. Ce n'est pas logique. Nous, on a mangé notre part. On leur a laissé une petite, comme les absents ont toujours tort, comme on dit. Et ils reviennent. Ils reviennent. Ils m'appellent encore à manger. Moi, j'ai dit, mais non. Oui, il fait exprès pour m'impressionner. Il y a un problème. Bon, moi, je refuse. Mais il appelle un dangereux, lui qui ne refuse pas, qui vient prendre la grosse part. Encore, j'ai dit, mais non, ces gens-là sont fous. C'est pourquoi les gens, le jour où ils m'ont dit, mais demain on va baptiser quelques personnes. Eric, est-ce que tu veux être aussi baptisé? Moi, je dis, ah bon? Mais expliquez-moi, il m'explique bien aimé. Je n'avais même pas le temps d'hésiter. Tellement, ils m'avaient touché. J'avais senti qu'ils avaient quelque chose de supérieur à moi, parce que moi, j'étais incapable de laisser ma part à d'autres qui avaient déjà pris leur part. Donc, c'était sans hésiter. Le lendemain, je me suis fait baptiser. Quand on m'a expliqué que quand j'étais bébé, ce n'était pas un baptême, c'était une cérémonie. Marc 16, 15, 16 à l'appui. Donc, j'ai compris cela. J'ai dit, maintenant, je vais me faire baptiser, bien-aimé. Ils n'ont pas souffert avec moi parce qu'ils m'avaient déjà eu par leur témoignage. Ils n'ont pas galéré parce que j'avais vu leur supériorité, la supériorité de leur Dieu par rapport à la logique humaine. Parce que leur Dieu était au-dessus de la logique humaine, qui voulait que chacun a sa part, chacun prend sa part. Mais leur Dieu était au-dessus, leur Dieu pouvait les convaincre de donner quand même leur part. J'ai dit, pas de problème, demain je me fais baptiser aussi. C'est ça la réalité, témoigner de Christ. Manifester sa nature, parler aussi de lui, chanter pour lui, glorifier son nom, vivre pour lui. En quelque sorte, chacun selon les moyens que Dieu lui donne, mais animé du même esprit. On n'est pas tous obligés de prêcher, on n'est pas tous obligés de chanter, mais on est tous animés, on doit tous être animés du même esprit de glorifier Christ, certains par leur présence, d'autres en portant des panneaux, d'autres encore en faisant de grandes offrandes pour le Seigneur. D'autres, mais dans tous les cas, l'esprit qui glorifie Christ va te pousser à le glorifier dans des actes. Ma prédication, c'est ça. C'est le temps de glorifier Christ à travers l'annonce de l'Évangile de toute manière possible. Cette femme-là ne savait pas que faire. Elle était animée de l'esprit de glorifier Christ, mais elle ne savait pas parler, certainement. Elle n'était pas une bonne poète, mais elle était animée de l'esprit de glorifier Christ. Elle a pris tout le parfum. Comme humainement, on va dire, bêtement, elle a tout versé. Mais au ciel, il y a eu la joie quand elle a versé tout ce parfum-là sur Jésus. Les anges ont dit, ah, un humain qui a compris. Parce qu'il est écrit, quand Jésus-Christ est né, les anges se sont réjouis. Ils ont dit, la terre, c'est une joie pour vous maintenant. Alors que quand il y a eu guerre dans le ciel et que Satan était envoyé au ciel, sur la terre, mais qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse 12? Malheur à toi, terre, parce que la souffrance est abattue sur toi. Mais quand Jésus a été précipité sur terre à travers Marie, les anges ont dit, paix sur la terre. Aux hommes qui l'agréent. C'était une grande joie. Le Fils de Dieu est né sur la terre. Les choses vont changer. La gloire de Dieu est sur la terre. Les anges étaient conscients de qui étaient. Conscients de la nature de Christ. Ils ont dit alors paix sur la terre. Et cette femme-là était consciente de la nature de Christ. C'est pourquoi elle n'a pas mis une goutte, mais tout le parfum. Bien-aimés, l'esprit de glorifier Christ nous amène à nous livrer totalement. Totalement, et les gens vont parler, les gens vont critiquer notre amour pour Christ, mais c'est un amour qui doit être total, sans frein. Et c'est pourquoi ça va avec la liberté. Quand tu es rempli de l'amour de Christ, ça crée en même temps une sorte de liberté Les gens ne te font plus peur. Les circonstances ne te font plus peur. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, prêche en toute occasion, favorable ou non. Parce que l'esprit qui anime celui qui est attaché à Christ, c'est un esprit qui n'a pas peur. C'est un esprit qui veut glorifier Christ et il ne dépend pas des circonstances humaines. C'est plus que cela, bien-aimé. On n'a jamais vu le vent respecter les humains. Pour dire, mais tiens, il y a match de football, je ne veux pas souffler. Ou bien la pluie dire, mais puisqu'il y a match de football, il y a camping, bon, moi, je ne veux pas tomber. Non, ce n'est pas leur problème. Le vent souffle, la pluie tombe. Quelles que soient les circonstances humaines, l'esprit qui glorifie Christ ne dépend pas des circonstances humaines. Partout où cet esprit-là est, il va chercher à glorifier Christ. Or, cet esprit est dans chacun d'entre nous. Comprenons la conséquence de cela. C'est sur nous que repose le fardeau de glorifier Christ. C'est ça l'annonce de l'Évangile. Nous devons nous engager dans l'annonce de l'Évangile. Chacun à son niveau. D'autres vont prier pour le changement, pour la conversion des âmes. Vous savez, nous vivons un temps crucial. Le Seigneur revient. On m'a raconté que je crois c'est peut-être cet avion-là, le dernier avion qui est tombé. Quand on a ramassé les choses qui étaient dans cet avion-là, on a trouvé un homme de Bible égal au nombre de passagers. C'était un message du Seigneur pour l'Église. Il y avait un homme de Bible égal au nombre de passagers. Qui pouvait penser ça? Les gens ont soif de l'Évangile. Mais si nous sommes des chrétiens qui cachons notre lampe sous la table, comment les gens sauront? Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'on prend une lampe, on cache? Est-ce que la lampe doit être mise au-dessus de la table, sur la table? Est-ce qu'on va cacher la lampe en dessous de la colline? Non, on va mettre sur la colline afin qu'elle éclaire. Il y a des gens qui ont des Bibles en cachette. Mais le jour où ils rencontrent un vrai chrétien, ils peuvent avouer, « Ah tiens, moi j'ai une Bible, est-ce que tu peux m'expliquer telle chose ?» Voilà, bien-aimé. L'eunuque éthiopien était en train de lire Ésaïe 53, tout seul, sans trop bien comprendre. Dieu a dit à Philippe, « Approche-toi de lui. » Mais Philippe approche clairement, il dit, « Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Et il lui explique, cet homme-là s'est converti sur place, bien-aimé. Et là, les forces des ténèbres souffrent. Là, la gloire de notre Dieu est proclamée. Parce qu'il y a un nouveau-né en Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, souvenez-vous du verset qui dit, il y a de la joie au ciel lorsqu'il y a une seule personne qui se donne. Ce n'est pas que Dieu néglige les humains. Je peux vous dire que la gloire de Dieu est plus importante qu'un homme. Prioritairement, quand il y a une conversion, Dieu est glorifié. Il a remporté une bataille encore. Un territoire est gagné. Dieu est glorifié parce que cet homme-là qui s'est converti va être utilisé pour glorifier Dieu. C'est un instrument nouveau entre les mains de Dieu. Mais Dieu est aussi dans la joie parce qu'une âme est sauvée. Comprenons la partie glorification de Christ à travers l'évangélisation, la conversion. Quand Jésus est né, les anges ont dit paix aux hommes. Alors quand un chrétien se convertit, quand un homme s'est converti, Jésus naît en lui. La même puissance que les anges ont louée, c'est la même puissance qui vient dans un nouveau converti. Et il y a des effets bénéfiques tout autour, puisque c'est Jésus qui vient de naître dans cette personne. Tout autour, il y a la gloire de Dieu qui commence à agir. C'est la même chose que lorsqu'un il est né. C'est important de saisir ces choses. Moi, j'ai deux moments sur la terre que j'aime le plus. L'adoration et la conversion. C'est les deux moments que j'aime le plus. Quand quelqu'un s'est converti, pour moi, c'est comme si je voyais Jésus descendre maintenant dans la personne. Ça fait un effet bizarre dans mon cœur, mais un effet puissant. La conversion, c'est extraordinaire. Je vis pour voir les conversions. À chaque fois qu'il y a conversion, c'est comme si Jésus vient rafraîchir son Église. Il redescend au milieu de nous. Nous devons évangéliser, nous devons parler du Seigneur, nous devons travailler à cela. Parce que les conversions sont des choses belles, très très belles. Le Seigneur descend et se manifeste. Quelqu'un qui est en Christ est une nouvelle créature. Et c'est beau de voir Jésus clairement. Pourquoi on le voit clairement? Parce que cette personne, on l'a connue avant. Maintenant, on la voit réfléchir maintenant. Parfois, il y a des gens qui étaient obtus, têtus, orgueilleux. Mais vous voyez de telles personnes commencer à venir demander conseil pour tout. Mais ça fait bizarre de voir ce changement-là. Et quand la personne s'en retourne, tu dis, mais ce n'est pas possible. Jésus-Christ est entré dans ce corps-là. Et ça fait du bien, ça donne la force. Ça, c'est le deuxième volet. Premier volet, glorifier Christ à travers l'évangélisation. Deuxième volet, l'évangélisation apporte les conversions. Ça apporte les nouvelles naissances. C'est comme si ça apportait Jésus nouvellement encore. Ça renouvelait la présence de Jésus autour de nous. Et c'est beau, c'est fort. Nous devons évangéliser, nous devons annoncer Christ parce que nous devons survivre. Qui a déjà vu un homme s'enterrer tout seul? Personne ne peut s'enterrer tout seul. Il y a toujours des gens qui t'enterrent. Quand on subit l'anesthésie, qui est-ce qui s'opère tout seul? Personne, il y a des gens qui le font. Bien-aimés, aujourd'hui, dans nos sociétés, tous ceux qui ont atteint un âge où ils sont presque impotents, mais ce sont les jeunes qui s'occupent d'eux. Imaginez que la France n'ait pas eu, dans les années, par exemple, 50, on a stérilisé tous les Français, ils ne peuvent plus avoir des enfants. Qui allait s'occuper des gens qui sont impotents aujourd'hui? C'est la naissance qui permet la survie de l'espèce. S'il y a des naissances, l'espèce survit. Imaginez que le dernier lion à pouvoir enfanter soit un lion de 1920. Est-ce que vous, nous, on allait voir le lion? On allait seulement entendre parler des lions. Si aujourd'hui on voit des lions, c'est parce que les lions ont enfanté. Les conversions donnent la force à l'Église du Seigneur. Elle permet à l'Église du Seigneur de continuer d'exister et de glorifier le Seigneur. S'il n'y a pas de naissance, c'est la mort de l'espèce. Et quelle joie quand un enfant naît dans les maternités. Moi, je suis à chaque fois étonné quand j'entends les infirmières, les docteurs, tout le monde sauter de joie. Bon, moi, je constate et il y a une certaine joie, mais je suis étonné. Mais ils trouvent tous les bébés beaux. Moi, je dis, mais bon, ça, c'est la puissance de Dieu, ça. Quelle joie! La naissance, c'est la vie. Nous devons évangéliser à cause de cette vie-là que nous voulons. Un chrétien a besoin de vie. La vie de Christ, la vie d'en haut. Et cette vie, elle sort fortement quand il y a conversion. Quand il y a une conversion, la vie saute comme des fleuves d'eau vive. Et ça renouvelle l'Église du Seigneur. Ça fortifie, puisque Jésus descend encore. Au milieu de nous. Nous devons parler du Seigneur parce que nous avons besoin nous-mêmes de vivre. Vous savez, autour de nous, il y a beaucoup de tentateurs, pas seulement des démons, mais des humains. Et Souvent, ces tentateurs-là ont fini par avoir les chrétiens qui sont au milieu d'eux. Quel est un des moyens de vaincre tout cela? C'est de les voir se convertir. Dès qu'ils se convertissent, ils n'ont plus de tentateurs. Ils sont des compagnons d'œuvre, des compagnons de lutte. Et on peut se sortir de beaucoup de problèmes comme ça, juste par des conversions, et puis tout devient tranquille. C'est ça la réalité. Moi, j'étais dérangé par un ami au Maroc quand j'étais étudiant là-bas. Mais le jour où j'ai pris position, une position d'amour, parce qu'il me provoquait pour que je me fâche toujours. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, bon, cette fois-ci, je vais m'humilier. Et quand il a vu que je m'étais humilié, sa position par rapport à l'évangile a changé. Et il s'est converti. Quand il s'est converti, je n'avais plus de difficultés. Il ne me tentait plus. La conversion, ça va nous faire avancer. Ça va diminuer le nombre même des tentateurs. Nous sommes en guerre. Si toi, tu ne gagnes pas, l'autre va gagner. C'est rare de voir une guerre qui se termine en match nul. Il y a toujours un vainqueur et un perdant. Et dis-toi bien que si toi, tu ne vins pas, les tentateurs qui sont autour de toi, à travers leur conversion, c'est eux qui te vaincront. Donc nous devons nous employer dans la prière, dans le positionnement, dans le témoignage, dans le parler, dans l'annonce, par les actes d'amour et d'humilité. Nous devons nous employer à glorifier Christ afin que les gens autour de nous se convertissent. C'est le troisième volet, ça diminue nos combats, la force de nos combats et ça nous augmente la force de vaincre. L'évangélisation, bien-aimée, ça a beaucoup d'avantages. Beaucoup, beaucoup d'avantages. Je n'ai préparé que ces trois-là. Glorifier Christ. Recevoir la vie. Survivre en tant qu'espèce de Dieu. Et aussi vaincre les forces des ténèbres. Quand un homme est saisi par l'amour de Christ, les forces des ténèbres ne peuvent plus rien sur lui. Et cet homme qui était menaçant pour toi ne devient plus une menace, devient une force pour toi. Prions pour les mauvais. Témoignons. Prenons position. Mais ne nous laissons pas étouffer. Le diable fait tout pour nous empêcher de parler de Dieu. Il fait tout. Parce qu'il connaît les conséquences du fait de parler de Dieu. Il connaît les conséquences du fait de se positionner. Il connaît toutes ces conséquences. Et ça, c'est pourquoi il fait tout pour bloquer. En communiquant des logiques de langage humain, de sciences humaines, pour nous empêcher de nous éclater. En communiquant l'amour de l'argent. Hier, on parlait même d'un orchestre chrétien qui a été une grande bénédiction pour les chrétiens. Et ces gens-là, ben, leur mot d'ordre, c'était « on s'éclate ». Donc quand ils ont fait leur groupe, ils disaient « nous, quand on chante pour Dieu, on s'éclate, on est dans la joie, on célèbre le Seigneur ». Mais bien-aimé, à un moment, va venir le système des producteurs, de vente, et ce n'est plus s'éclater maintenant, ça devient un marché. Et le groupe maintenant s'est éclaté. Et le groupe en s'éclatant, il n'y a plus d'impact. Bien-aimés. Soyons comme des enfants. Éclatons-nous avec Christ. Que l'argent ne vienne pas nous étouffer. Que des logiques de succès personnel ne viennent pas nous étouffer. Éclatons-nous. Quand on sent qu'on ne s'éclate plus, réfléchissons à la route que nous avons prise. Quand on sent qu'il y a une sorte de professionnalisme humain qui veut l'emporter, résistons. Non, restons des enfants. Ne devenons pas des professionnels, restons des enfants. Éclatons-nous avec le Seigneur, glorifions le Seigneur, simplement avec les moyens du bord. Ne jalousons pas le ministère de l'un ou l'autre. Que chacun glorifie le Seigneur en sa manière. Comme le Seigneur a dit à cette femme-là, Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a versé le parfum sur moi. D'autres auraient fait des beaux discours. Mais elle a versé le parfum. Que chacun glorifie le Seigneur. En soutenant les œuvres aussi qui glorifient le Seigneur. En achetant des Bibles pour les gens. Tu peux te retrouver dans une circonstance où quelqu'un a besoin d'une Bible. Tu prends ta Bible, tu lui donnes directement. Et la parole s'en va. Mais ton idée, c'est quoi? Christ doit être glorifié à travers moi. Nous clôturons avec ce verset de Paul, 1 Corinthiens 9. Paul est l'une des personnes qui était animée fortement de cet esprit-là. Christ devait être glorifié. 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile. Amen. Je fais tout à cause de l'évangile. Il faut que les gens sachent que mon Seigneur est le Sauveur. Et le Messie. Je me souviens quand il était questionné par le roi Agrippa en prison. Il explique au roi Agrippa, il dit, roi Agrippa, moi j'ai été persécuteur des chrétiens. Je les emprisonnais. C'est dans cet esprit-là, entraîné par cet esprit-là, que j'ai pris des lettres de sacrificateurs pour aller emprisonner les chrétiens à Damas. Mais sur le chemin, le Seigneur des chrétiens m'a rencontré. Au lieu de me punir, il m'a pardonné et il a fait de moi son disciple. Il dit, roi Agrippa, comment je pouvais résister à une telle vision? Cette vision, moi j'appelle ça, et Paul a appelé ça cette vision, mais c'est l'Esprit de Dieu m'a entraîné. C'est pourquoi je prêche aux Juifs et aux païens que Christ est ressuscité d'entre les morts. Ah! Le roi Agrippa dit, mais Paul, tu veux me convertir moi aussi? Paul dit, oui, si tu le veux, si tu le veux. Paul n'a pas tenu compte que c'était le roi, il n'a pas fait de cérémonie. Il a dit, roi, c'est ce que j'explique à tout le monde, que Christ est mort à la croix, mais il est ressuscité. C'est lui le sauveur, le Messie attendu par les Juifs. Animé de cet esprit-là d'annoncer Christ. J'ai été faible avec les faibles. Il y a des moments où il faut accepter d'être quelqu'un de bas niveau parce que tu veux gagner les gens de bas niveau. Il faut accepter d'être quelqu'un qui échoue parce que tu veux gagner les gens qui échouent. Il faut aussi accepter d'être quelqu'un qui réussit parce que tu veux gagner les gens qui réussissent. Il a dit, je me suis fait tout à tous. Hein? De sorte que je puisse gagner même quelques-uns. Paul n'était pas... Les discours qu'on entend aujourd'hui, il y a des gens qui veulent gagner des millions. Non, Paul a dit, moi, j'aime tellement mon Dieu que même si je peux gagner quelques-uns, c'est déjà beaucoup pour moi. Je me livre entièrement à cette mission-là, bien-aimé. Et quand nous venons adorer le Seigneur vendredi, mercredi, tout ça, c'est tout, on est toujours dans cette logique-là. On est là, on dit, on allume, on honore notre Dieu, on glorifie Christ. On le prie. Les gens vont dire, mais ça fait 7 ans que... Oui, oui, ça, même pendant 1000 ans, on va le prier, on va le glorifier. Il faut glorifier Christ. Et l'évangélisation est un des moyens. Il faut qu'à travers nos vies, les gens se posent des questions. Mais qu'est-ce qui les amène à faire cela? Bien-aimés, les païens sont étonnés. Quand ils promènent leur chien le dimanche à 9h, ils nous voient avec la... Notre troupeau derrière d'enfants bien habillés, en train de bien aimer. Ils sont étonnés, mais c'est bien. Un jour, il y a un qui m'a dit, vraiment, c'est beau de vous voir comme ça. Voilà, bien aimé. Ça fait des années, ils voient. Mais ces gens-là, pourquoi dimanche à 9h, moins, avec tous les enfants qui traînent derrière là, ils vont quelque part. Ah ben, ils vont voir Jésus. C'est ça, bien aimé. Glorifier Christ par toutes sortes de moyens. Il y a une chose que je veux nous dire. Si nous, on ne le fait pas,
les enfants vont le faire. Mais quelle tristesse d'avoir été tout le temps au culte sans connaître l'esprit qui glorifie Christ. Mon petit enfant de 6 ans, quand il fait sa prière, à la fin il dit, « Seigneur, et que tous ceux qui ne sont pas chrétiens deviennent chrétiens. » J'ai dit ça, bien-aimé, je suis déstabilisé. J'ai dit, « Tiens, si nous on ne fait rien, il y a des gens qui vont faire. » Il faut glorifier Christ, bien-aimé. Prions. Seigneur, nous voulons que tu nous aides à livrer nos vies pour toi, Seigneur. Comme Paul l'a fait, il dit, je me suis fait tout à tous. Tout à tous. Je fais tout à cause de l'Évangile, Seigneur. Il dit qu'il fait tout à cause de l'Évangile. Aide-nous à faire tout à cause de l'Évangile. La bonne nouvelle. Aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi. À dire comme notre frère Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ô Éternel, oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur.